Bienvenue à tous pour ce culte de rentrée. Éternel notre Dieu, tu nous accueilles tous. Tu viens à nous tous et nous sommes heureux de venir à toi. Nous t'en prions ce matin. Accueille celles et ceux d'entre nous qui sont dans une période heureuse de leur vie, pleine de plaisir et de sourire. Accueille celles et ceux qui sont pleins d'amertume, d'angoisse, de colère. Accueille celles et ceux qui sont fatigués, qui ont besoin de repos. Ô Dieu qui accueille tous les hommes, qui nous accepte tous, nous sommes heureux de venir à toi, car nous le savons et nous l'annonçons. La grâce et la paix nous sont données. Amen. Je vous invite à commencer ce culte en vous levant pour chanter avec moi le spontané, page 26. Alors j'explique pour ceux qui ne sont pas là souvent. Les cantiques se trouvent dans le livre rouge, c'est ceux qui sont affichés, je les annoncerai de toute façon. Et quand on parle de spontané, on parle des petits cantiques qu'on utilise régulièrement et qui sont dans le livre bleu. Donc page 26. Restons debout pour entendre Louise qui va nous conduire dans la louange.
Ô Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu donnes, pour la fraternité vivante en Christ, pour ta parole qui est lumière, nourriture et vie, pour ta force qui nous transforme, pour ces transformations que tu opères en nous, pour toutes les fois où, grâce à toi, nous devenons un peu meilleurs. Pour tous ceux que tu as donnés à aimer, que tu nous confies pour qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Pour tous ceux qui recherchent la paix plutôt que le conflit et la guerre. Pour toutes les fois où tu nous aides à dépasser nos découragements et nos peurs. Sois la force qui nous libère et nous unit. Sois l'amour qui nous guide dans notre vie et nous conduit sur les chemins de ton royaume. Amen.
Et nous prenons le spontané, page 29. Je vous invite à vous asseoir.
Écoutons ce que Dieu attend de nous et nous donne la force de le faire. Dieu est lumière, ne nous habituons pas aux ténèbres du mal. Il est le berger des brebis, ne soyons donc pas comme des loups les uns pour les autres. Il est le Seigneur et Maître, ne nous mettons donc pas au service des idoles comme la richesse, le pouvoir, les addictions ou l'orgueil. Il est la vie qui renouvelle. Ne laissons donc pas la guerre et la misère empêcher tout renouveau. Et puisque Jésus est le Christ, n'oublions jamais le royaume d'amour et de paix que Dieu nous offre par le Saint-Esprit. Amen.
Alors je vous propose, entre ce moment et l'accueil du pardon, nous allons chanter en trois parties le psaume 283, le cantique, pardon, 283 dans le recueil rouge. Et comme nous ne le connaissons pas bien, Fred a proposé de nous le jouer une fois en entier avant qu'on chante la première strophe. Donc nous chantons la première strophe. Pardon. C'est toi, Jésus, qui as fondé la vérité de notre foi. Soutiens notre espérance, car nous n'avons pas su garder la paix de nos silences. Non, je vous invite à vous asseoir, sauf Romarie qui va nous conduire dans la prière d'humilité. Excusez-nous pour ces petits...
La loi de Dieu nous a conduits à nous unir dans la prière d'humilité. Seigneur notre Dieu, toi qui connais nos difficultés, notre égoïsme, notre petite foi et notre angoisse, toi qui connais notre orgueil et nos préjugés, nos manques de courage lorsqu'il s'agit de donner la place à la justice, de proclamer la vérité, nous t'appelons à l'aide. Tu connais le fond de nos cœurs, les belles actions dont nous sommes capables grâce à toi. Viens faire le tri en nous, Seigneur, relève-nous. Empêche-nous de mentir à nos frères et que nous rencontrons comme un frère ou une sœur. Apprends-nous à les respecter et à les aimer. Amen. Excusez-moi, j'ai loupé une phrase. Empêchez-nous de mentir à nos frères et nos sœurs, et encore plus de nous mentir à nous-mêmes. Aidez-nous à regarder chaque humain que nous rencontrons comme un frère ou une sœur. Apprenez-nous à le respecter et à l'aimer. Amen.
Nous prenons donc la deuxième strophe du cantique 283. Accueillons l'annonce du pardon, de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu sait nos erreurs, il est notre vérité, il sait notre faiblesse, il est notre force, il sait notre angoisse, il est notre paix, il sait notre folie, il est notre sagesse. Il sait notre orgueil, il est notre humilité. Il sait notre mort, il nous donne la vie par son pardon toujours renouvelé. Il sait notre nuit, il est notre étoile. Amen. Nous prenons la dernière strophe de ce cantique 283.
C'est toi qui...
Et en réponse à cet amour que Dieu ne cesse de nous manifester, je vous invite à confesser ensemble notre foi. Vous trouverez dans les recueils bleus la confession de foi du foyer de l'âme. imprimé, je l'ai ajouté, c'est la petite feuille que vous trouvez ajoutée, pour que nous puissions la dire ensemble. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, il a souffert, il est mort, présent dans nos vies, il nous pardonne. Il nous montre le chemin, il est la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois que Dieu place sa confiance en nous. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix à tous les hommes. L'Esprit de Dieu crée et recrée la vie et le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Nous prenons le spontané, page 27. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons eu une séance avec les catéchumènes, Serge et moi, à 9h, et nous avons travaillé un petit peu sur les textes sur lesquels portera la prédication. Donc, nous allons avoir le plaisir de les entendre, introduire ces textes, et puis les lire.
Ce matin, pour notre première séance de caté, nous avons étudié les trois lectures bibliques que vous allez entendre. Le psaume 121, un passage du livre de l'Exode et un extrait de la lettre de Paul aux Galates. Bien sûr, ces lectures n'ont pas été choisies au hasard. Nous savons que pour notre voyage, pour vivre ensemble en communauté, en église, et pour faire vivre et grandir notre église, nous avons besoin de beaucoup de confiance, de fraternité et de courage. Nous savons aussi que la confiance, la fraternité et le courage, c'est souvent ce qui nous manque le plus. Mais ce que ces textes nous disent, c'est que Dieu a confiance en nous et que cette confiance de Dieu qui nous permet d'avancer avec fraternité et courage.
Pour chacune de ces lectures, nous avons parlé de son origine. Le psaume 121 fait partie de cet ensemble. Pour chacune de ces lectures, nous avons parlé de son origine. Le psaume 121 fait partie de cet ensemble qu'on appelle les psaumes des montées. Ce sont les prières qui étaient chantées au moment des départs en pèlerinage à Jérusalem, pendant le trajet et aussi à l'arrivée. Celui qu'on va entendre était probablement chanté au moment du départ. Le texte de l'Exode nous montre comment Moïse donne courage à l'armée des fils d'Israël pendant une bataille. Mais il nous montre surtout que Moïse non plus ne peut rien réussir tout seul, qu'il a besoin d'aide pour cette œuvre d'encouragement. Et dans la lettre de Paul aux Galates, nous allons entendre une autre forme d'encouragement, un encouragement à la vie fraternelle et communautaire où les désirs individuels, les petites vanités de chacun peuvent laisser place à une véritable générosité. Nous commençons par écouter le psaume 121.
Reste là. Je suis désolée, il y a un petit... Nous prions avant d'entendre les lectures bibliques pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, nous sommes assemblés ce matin pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour en nourrir notre recherche de ta présence en nos vies et dans le monde. Pour que les Écritures deviennent et demeurent pour nous paroles de vie, toi qui es venu nous rejoindre dans notre humanité, éveille nos esprits et ouvre nos cœurs dans ce chemin de foi où nous avançons ensemble. Amen.
Nous commençons par écouter le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours.
Nous lisons maintenant dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, les versets 8 à 14. À Réphidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et dis bien à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. »
Et dans la lettre de Paul, aux Galates, au chapitre 6, les versets 1 à 10.
« Mes frères, si quelqu'un vient être surpris en une faute, quelle qu'elle soit, vous, les spirituels, aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois mis à l'épreuve. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Celui qui se considère comme quelqu'un d'important, alors qu'il n'est rien, s'isole lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui-même, et non par rapport à quelqu'un d'autre, car chacun portera sa propre charge. Que aussi, que celui à qui on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, celui-ci qui l'enseigne. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qui moissonnera. Celui-ci qui sème sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu. Si nous ne relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. Seigneur, ta parole est lumière et vérité. Permets qu'elle éclaire notre chemin.
Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi le psaume. Alors attention, le psaume 121, mais dans le recueil de cantiques, il y en a deux. Par contre, il n'y a pas de psaume 122. Donc c'est le deuxième qu'on va prendre, le psaume 121b, page 84.
Je regarde.
Quand on entend les trois textes que les jeunes nous ont lus, quand on les entend l'un après l'autre, on entend l'histoire d'une évolution, d'un changement et même de plusieurs changements. Nous sommes passés de l'appel à l'aide individuelle d'une seule personne, d'où me viendra le secours, à l'encouragement de tout un peuple, pour arriver avec Paul à la recherche commune du bien de tous. Œuvrons pour le bien de tous, en portant les fardeaux les uns des autres. Alors regardons d'abord le psaume. Les psaumes dans l'Ancien Testament, c'est le moment où on peut parler à Dieu à la première personne du singulier, en disant « je ». Pas toujours. On trouve aussi beaucoup de « nous », bien sûr. Mais aussi souvent, et en particulier ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles je crois que nous aimons lire, dire ou chanter les psaumes. En lisant un psaume, je dis « je », moi aussi. Mais je le dis avec les mots de génération et de génération de chercheurs de Dieu. Et donc, dans ma recherche d'une forme de proximité avec cela qu'on appelle Dieu, je m'approprie les paroles de toutes ces générations, je les assume. Et ce n'est pas toujours facile, de nombreux psaumes sont très violents. Mais d'une manière ou d'une autre, ces paroles nourrissent ma propre recherche. Et le psaume que nous venons d'entendre exprime une inquiétude au moment du départ. D'où me viendra le secours? Mais voilà que la réponse arrive par une autre voie. D'abord une voix intérieure. Le secours me vient du Seigneur. Un peu comme si le psalmiste, celui qui compose le psaume, parlait tout seul. Et très vite, on va passer à la deuxième personne. Quelqu'un d'autre lui répond. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Alors non seulement le pèlerin, sur le point de partir, a obtenu une réponse, mais vous l'avez sûrement remarqué, c'est une réponse qui lui rappelle aussi qu'il fait partie de tout un peuple, puisque celui qui va veiller sur lui, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort jamais, le gardien de tout Israël. Et donc, si on imagine que ce psaume était chanté par plusieurs personnes ensemble au moment du départ, c'était déjà un acte communautaire. Dans le même temps où chacun ressentait l'angoisse en son fort intérieur, dans le même temps, chacun rassurait son voisin en lui disant d'avoir confiance parce que le Seigneur était là pour tous. Alors, dans le cas de Moïse, c'est encore plus évident. J'ai remarqué que dès qu'on mentionne cette histoire, les gens qui la connaissent commencent à sourire. Ah oui, les bras de Moïse, l'histoire des bras de Moïse. Et alors, je me suis posé la question, et on peut se la poser ensemble, pourquoi aimons-nous tellement ce texte ? D'abord une information, beaucoup de biblistes pensent que ce texte a été écrit par au moins deux personnes, et peut-être à deux époques différentes. La première a juste raconté l'histoire de Moïse et de Josué. Josué qui se bat dans la vallée, pendant que Moïse, debout sur la colline, lève son bâton vers le ciel. Le bâton de Moïse, le même dont il est question depuis le début, celui avec lequel il a frappé la mer pour qu'elle s'ouvre et le rocher pour qu'il donne de l'eau. Et une deuxième personne aurait ajouté Aaron et Hur pour donner en fait de l'importance aux prêtres, puisque les descendants d'Aaron et Hur deviendront prêtres, seront considérés comme prêtres. Et Aaron, vous le savez, c'est le frère de Moïse. Quant à Hur, on ne sait pas très bien, c'est la seule fois en fait où son nom en tant que personne apparaît dans l'Ancien Testament, mais probablement, enfin, des commentateurs juifs ont interprété ça, le nom, comme étant celui du beau-frère de Moïse, le mari de Myriam, de sa sœur Myriam. Ça n'a pas une grande importance, mais c'est sans doute pour ça, parce que le texte a été rédigé à des époques différentes et par des personnes différentes, qu'à certains endroits, peut-être l'avez-vous remarqué, on parle de la main de Moïse, la main qui tient le bâton, et qu'à d'autres, on parle de ses mains levées dans une attitude d'invocation, de prière, bien sûr. Ça change un peu la perspective, parce que d'habitude, on a Moïse comme chef unique, avec Josué qui va prendre la suite. Et pour une fois, il s'agit ici d'une action collective. Et en plus, j'en profite pour le dire, elle améliore un petit peu l'image du pauvre Aaron, parce que depuis l'épisode du veau d'or, il n'avait plus tellement la côte. Donc là, il a un rôle au contraire très positif. Et alors, dans les Targum, les traductions de l'Ancien Testament en araméen, avec des additions et des commentaires, il y a aussi beaucoup de discussions, bien sûr, sur cette scène, et en particulier sur le fameux bâton. Mais alors, si Moïse avait les deux mains levées, quelle main tenait le bâton ? Eh bien, tu comprends, comme Moïse avait les deux bras levés, quand il avait mal à la main droite, il pouvait faire passer le bâton dans la main gauche, en plus de l'aide d'Aaron et Hur. C'est une histoire qui nous fait sourire. Je le vois encore là et ça me fait plaisir. Et elle nous plaît aussi parce qu'elle a un peu l'air d'une fable, d'une parabole. Et d'une certaine manière, c'en est une. C'est une parabole. Si on la creuse un peu, elle est très profonde. Elle montre que non seulement nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, mais que cette action encourageante de Dieu, représentée ici par l'intermédiaire du bâton, cette action ne peut être ressentie par les humains que s'ils unissent leurs efforts et se soutiennent les uns les autres. Non seulement l'encouragement de Dieu s'adresse à tous, mais pour qu'il soit efficace, Dieu a besoin que les humains s'unissent et s'entraident. Dieu a besoin de nous pour agir. Nous le savons tous, nous y pensons quelquefois. Mais après tout, il n'est pas forcément inutile d'y réfléchir maintenant, aujourd'hui, en ce culte de rentrée, précisément pour les raisons que Paul explique aux Galates. Dans le passage qui nous a été lu est particulièrement bienveillant par rapport à l'ensemble de la lettre de Paul aux Galates, qui est plutôt très sévère pour d'autres raisons, à vrai dire. Mais c'est à peu près le seul où il n'est pas en train de leur faire des reproches. J'ai eu du mal à le trouver. Ce n'est pas pour rien qu'il commence en les appelant « frères », pour les ramener à l'essentiel. Et il les encourage, parce qu'il se rend compte que leur vie en Église, avec toutes les critiques qu'il a formulées, elle n'est quand même pas toujours facile. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. » C'est souvent plus facile à dire qu'à faire. D'abord, on n'a pas toujours envie de raconter ses malheurs à tout le monde, même en Église, même à des frères et sœurs d'Église. Et puis quand quelqu'un vous les raconte, on le sait bien, on se sent à la fois compatissant et souvent complètement désarmé. Mais c'est quelquefois l'occasion de jeter le masque, de vaincre sa pudeur, de ne pas craindre de se mettre en danger, pour se libérer soit d'un peu de tristesse, soit pour offrir à quelqu'un une manifestation de fraternité très ordinaire, quelquefois même un simple geste. Et ces occasions-là, bien sûr, nous ne devons pas les laisser passer. Mais il faut bien le reconnaître, quelquefois, pour nous, les fardeaux se vivent aussi en Église. Et peut-être que c'est cela dont Paul parle avant tout. Pour ceux qui ont des responsabilités en Église, et ils sont nombreux aujourd'hui parmi nous, bien sûr, il y a d'abord et avant tout la joie dans le service, la joie de répondre, comme nous le pouvons, au pressant appel qui nous habite. Et dans ce service, les difficultés ne sont pas des obstacles. Elles font partie du service. Mais il y a aussi les exigences de la vie avec lesquelles il faut bien composer. Et surtout, quelquefois, ce sentiment de solitude qu'on découvre dès qu'on accepte une responsabilité. Ce sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent, ce sentiment qui, tout simplement, va nous obliger à accepter nos limites. Le sentiment que Dieu a besoin de nous, même si, bien sûr, nous savons que nous n'en ferons jamais assez. Le sentiment, donc, d'une responsabilité qui nous dépasse et que, donc, comme dans le psaume, nous devons lui remettre avec confiance au départ et au retour. Et nous sommes tous appelés, tous, à accueillir ce sentiment, à le laisser agir en nous, et à y répondre comme nous le pouvons, sans complaisance envers nous-mêmes, mais en acceptant nos difficultés et nos limites. Et j'en profite pour exprimer ma profonde reconnaissance à celles et ceux d'entre vous qui ont déjà permis à cette année de transition de démarrer de manière dynamique et encourageante. Voilà, je vous ai proposé ces lectures pour ce culte de rentrée parce qu'il m'a semblé qu'elles pouvaient nous éclairer sur ce qui est attendu de nous et la manière dont nous pouvons y répondre. Dans notre monde, la plupart du temps, les efforts sont moins valorisés que la réussite. Eh bien, je vous propose d'inverser ce système de valeurs. Il s'agit simplement de persévérer, avec lucidité et sans complaisance envers nous-mêmes, mais toujours avec bienveillance envers les autres et dans la confiance. Amen. Alors, je suis sûre que la plupart d'entre vous le savent, mais il est toujours utile de le redire. Dans l'Église protestante unie de France, il n'y a ni condition ni obligation pour participer au repas du Seigneur. Quiconque voit dans le partage du pain et du vin, et dans la petite coupe ici que je passerai aussi, il y a du jus de raisin pour ceux qui l'ont demandé ou le souhaitent, Quiconque voit dans ce partage le signe de la présence de Christ parmi nous peut participer à ce repas. Mais il n'y a pas non plus d'obligation et ceux qui ne désireraient pas communier sont invités à se joindre au cercle de communion sans prendre le pain et le vin. Et donc je vous propose de commencer par chanter. Nous allons chanter en deux fois les strophes 1 et 2 du cantique 231.
De toi, Seigneur, nous vient le don du repas de la fête. En ce désert où nous marchons, toujours tu nous la prêtes. Richesse en notre pauvreté, réponse.
Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit, à n'importe quelle heure, ma porte est ouverte, il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi, il est une nourriture dans la fatigue de nos jours.
Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit, jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, avec vous je me tiendrai, jusqu'à l'accomplissement, avec vous je me tiendrai. Il est une charpente dans la dispersion de nos jours.
Chacun de nous a pu l'entendre. Dieu l'a dit. Si vous êtes ensemble à cause de moi, je suis au milieu de vous. Il est une présence dans l'isolement de nos jours.
Que Dieu nous accorde de célébrer sa présence dans la joie. Et nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ, vous êtes invités à former le cercle de communion. Venez, car tout est prêt.
Et il y a bien sûr des chouquettes pour les enfants, comme la tradition le veut.
Former le cercle. S'il y a des gens qui peuvent passer. Ah bon, il ne ferme pas ? Il ne le ferme pas ? Ah bon, d'accord. Non, non, mais c'est pour ça. Ceci est mon corps, a dit le Seigneur en partageant le pain. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la mort de Jésus. Il s'est donné pour tous. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la vie qu'il nous offre. Il est vivant au milieu de nous.
Ceci est mon sang, a encore dit le Seigneur en élevant la coupe. Dans cette coupe, nous trouvons le signe de la souffrance de Jésus. Il est resté seul à Gethsémané. Dans cette coupe, nous trouvons aussi le signe de la joie qu'il nous offre. Il est vivant au milieu de nous.
Nous tous qui sommes ici, souvenons-nous que nous sommes tous, frères et sœurs, invités au même festin. Pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, à nous tous sont donnés la vie, la joie et la paix en Jésus-Christ. Et comme il nous l'a enseigné, nous disons ensemble à Dieu, notre Père,
le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Allons en paix, dans la joie et la force que Dieu nous donne. Vous êtes invités à regagner vos places.
Merci beaucoup Catherine pour cette très belle prédication, ce beau culte de rentrée, cette belle prédication qui est une ode à l'encouragement et au partage du fardeau. Je pense que c'est une belle métaphore pour ce qui nous attend effectivement cette année. Comme Catherine vous l'a évoqué également, nous entrons dans cette année de vacances pastorales, comme vous le savez tous. Grâce à Catherine qui est chargée de mission pastorale, nous allons pouvoir avoir également beaucoup de soulagement de nos fardeaux, puisque Catherine anime la paroisse, anime beaucoup de groupes de réflexion et également fera au moins 2 cultes par mois en fonction des périodes. Nous attendons également beaucoup de prédicateurs extérieurs et quelques-uns parmi nous se chargeront aussi parfois de la prédication. Je crois que c'est tout ce qu'il faut que je dise. Ah oui, si, je voulais aussi beaucoup remercier les jeunes, parce que je pense qu'on a tous beaucoup apprécié de vous entendre, d'abord vous impliquer dans la préparation de ce culte. Vous nous avez lu des très beaux textes, et j'espère que vous continuerez à venir régulièrement animer un culte avec nous. Est-ce que nous avons des annonces pour... Oui, alors vas-y, je te laisse.
Je ne sais pas si c'est seulement quelques personnes.
Oui, la réunion pour la fête de l'amitié.
Oui. Pour préparer la fête de la réunion, pour préparer la fête de... Ah voilà, Isabelle va venir en parler. Alors avant qu'Isabelle nous parle de cette réunion, je voudrais vous dire que donc nous continuons à ouvrir le temple tous les lundis midi, peut-être pas pendant les vacances, et que je suis très reconnaissante à Fred qui est venu et qui reviendra, je crois, nous offrir une animation musicale, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a attiré de nombreux visiteurs. Cependant, je voudrais vous dire que ce temps n'est pas uniquement, bien sûr, je me doute que le vôtre est précieux, mais ce temps n'est pas uniquement pour les personnes qui ne connaissent pas encore le temple, et que si vous avez envie de passer, certains l'ont déjà fait, d'échanger, c'est aussi l'occasion éventuellement d'un entretien ou de prendre un rendez-vous, je serais ravie, bien sûr, de vous voir. Et c'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer éventuellement quelques visiteurs. Bon, je ne voudrais pas non plus que vous croyiez qu'ils sont si nombreux que ça. Ils sont pour l'instant peu. Voilà. Mais enfin, on a quand même en tout une dizaine de gens qui entrent, qui posent des questions. Pardon, excusez-moi, je vois qu'il y a des gens qui ne m'entendent pas. Donc il y a une dizaine de gens qui entrent, qui posent des questions, qui sont et qui, quelquefois, j'espère, qui sait, reviendront. En tout cas, ils repartent avec l'amitié. Celui du mois de septembre, puisque celui du mois d'octobre sera là dimanche prochain. Voilà, et je voudrais vous dire aussi que samedi prochain, le samedi matin, le 6 octobre, aura lieu au temple, le matin, une réunion de tous ceux, de tous les paroissiens qui le souhaitent, de notre consistoire. Comme vous le savez probablement, le Foyer de l'âme fait partie d'un groupe de paroisses qui s'appelle le Consistoire, un groupe d'églises protestantes unies, le Consistoire, en l'occurrence, Paris-Saint-Martin-Ourcq, qui est présidé, ce Consistoire, par quelqu'un que nombreux d'entre vous connaissent, puisque c'est Georges, le pasteur d'Aubervilliers, Georges Letellier, qui a été stagiaire ici. Et donc, l'assemblée annuelle du Consistoire sera consacrée à la musique et spiritualité, la musique pendant les cultes, et un certain nombre des églises du consistoire seront présentes le matin, représentées en tout cas, soit avec un groupe de musiciens, soit en tout cas par quelques personnes, pour parler et éventuellement montrer comment se déroule leur propre musique, leur propre animation musicale des cultes, leur propre louange, et ça peut être très intéressant. Donc, le cas échéant, eh bien, si vous êtes libre, n'hésitez pas à venir samedi prochain, le matin, pour représenter le foyer de l'âme et aussi pour écouter et apprendre comment ça se passe ailleurs. Et enfin, Vincent Fabre, c'est ça ? Oui, Vincent Fabre m'a demandé de faire l'annonce. Il y a une formation secourisme, alors pas samedi 6 octobre, mais samedi 13 octobre, je suppose, au deuxième étage, toute la journée. Et donc, il suffit pour y participer de s'inscrire auprès de Teresa en donnant son mail ou son numéro de téléphone. Voilà. Il y a aussi une adresse que je pourrais vous communiquer. Oui, mais je termine, je n'ai pas fini. Bien. Ah oui, d'accord, bah vas-y.
Bonjour tout le monde. Petite annonce pour vous rappeler. On m'entend pas ? Ouais, je ne m'en rends pas compte, c'est la première fois. Oui, on m'entend. Oui, juste pour rappeler qu'il y a une réunion à la fin du culte pour l'école biblique. Voilà, parents et les membres de l'équipe. Voilà, juste après. Bon. Vous m'avez pas entendu ? J'ai vraiment pas l'habitude. Hein. Non, juste après le culte, merci, il y a la réunion de rentrée de l'école biblique. Voilà, on invite les parents à venir nous voir et on va pouvoir... ensemble pour les inscriptions et le programme de l'année. C'est bon, tout le monde m'a entendu ? Ouais.
Alors, oui, je pense que ça a été annoncé dans l'amitié et également dans un certain nombre de cultes à la rentrée, mais peut-être certains d'entre vous ne sont pas au courant que nous avons nommé notre futur pasteur, que nous avons choisi avec le conseil presbytéral. Il s'agit de Madame Dominique Hernandez. Donc nous allons voir pour la première fois une pasteure, puisque nous avons retenu ce féminin en pasteureux, oui. Et donc Dominique Hernandez est actuellement pasteur à Massy-Palaiseau et elle nous rejoindra à partir du 1er juillet de l'année prochaine. Isabelle, tu veux parler de la fête de l'amitié ?
Oui. Bonjour. Alors, Catherine a annoncé la réunion d'organisation de la fête de l'amitié qui a lieu mardi 2 octobre à 18h30. Tous ceux qui veulent sont les bienvenus. Mais je voudrais également rappeler les dates de la fête de l'amitié qui aura lieu les 23, 24 et 25 novembre. Et rappeler aussi que finalement c'est un temps de partage et qu'en fait on a besoin, comme le disait Catherine tout à l'heure, les uns des autres pour organiser cette fête et notamment pour glaner des petites choses qui pourront être proposées, vendues et partagées. On a besoin, mettez-le juste dans un petit coin de votre tête, de gâteaux, de pâtisseries, d'épiceries, de bonnes épiceries, donc pour le 23 novembre. Et puis aussi, une chose importante, Jean-Jacques Meynier tient le stand de brocante, mais il a besoin de beaux objets, d'objets qui pourraient enrichir, qui pourrait donner envie d'acheter, et voilà. Donc, si vous avez des objets dont vous avez un petit peu assez, qui vous encombrent un peu, mais qui sont quand même jolis, eh bien, n'hésitez pas à les apporter. Voilà.
Bonjour à tous, je suis Christophe Varet, je suis le conseiller groupe local pour les EUDF, les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Donc, on a en fait un groupe d'éclaireurs et de louveteaux et d'aînés qui fait une centaine, un peu plus de 100 enfants qui sont répartis entre le foyer de l'âme pour moitié et pour moitié au temple de Béthanie à Gambetta. Voilà, donc notre année a démarré sur des chapeaux de roue et tous les équipes de responsables sont en place pour accompagner les enfants. Donc on accueille des enfants de toutes obédiences et toutes origines, mais par contre on est effectivement attaché à l'Église réformée et les enfants gagnent un attachement effectivement à ces lieux, qui est cet endroit qu'ils accueillent. Donc merci à vous de les accueillir dans cette communauté. Voilà, je voulais juste ajouter qu'effectivement, on participera à la fête de l'amitié, comme on le fait chaque année, pour aider au repas. Donc, il faut qu'on se rentre en contact pour s'organiser là-dessus. Et dernier sujet que je voulais évoquer, effectivement, on manque encore de responsables. Enfin, en tout cas, on est en permanence en recrutement de responsables. Donc, si vous connaissez parmi vos proches des jeunes filles et des jeunes garçons qui arrivent à Paris, alors souvent, dans le cadre des études, ça peut arriver qu'ils soient intéressés pour encadrer et participer à l'aventure scout en tant que responsable, ils sont les bienvenus, on les accompagne, on les forme et on finance une partie de leur formation au BAFA. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si autour de vous il y a des jeunes garçons ou des jeunes filles qui ont envie de tenter l'aventure avec nous et devenir responsable. Les équipes de responsables sont très, très dynamiques, très sympas et on a effectivement des moyens logistiques, beaucoup d'enfants à encadrer. Donc, on les accueillera avec plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis voilà, merci encore au Foyer de l'âme de nous accueillir.
Alors, c'est une annonce qui concerne les cours de français qui ont lieu dans le temple les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30. Chaque moniteur, comme on les appelle, professeur, fait une seule soirée par semaine, mais nous manquons de professeurs, soit titulaires, soit remplaçants. Donc, si vous sentez l'envie plutôt que les compétences, hein, nous aiderons. De ce côté-là, vous ne manquerez pas de venir me voir nombreux à la fin de ce culte. Merci.
Alors, nous avons une bonne occasion de nous retrouver tous à la fin de ce culte, puisque nous avons prévu de faire un gros apéritif un peu augmenté, de façon à garder le maximum d'entre vous autour de nous, et puis de pouvoir partager nos impressions de rentrée. Chacun a apporté un certain nombre de choses. Donc, nous nous retrouverons pour un apéritif juste à la fin de ce culte.
J'ai une dernière annonce. Qu'est-ce qui est arrivé au micro ? Sabotage. Voilà. Donc, j'ai une dernière annonce qui concerne les catéchumènes et tous les jeunes en général, soit les grands de l'école biblique, soit les jeunes qui ne sont plus inscrits au caté, mais que ça pourrait intéresser quand même. Samedi prochain, nous organisons en fin d'après-midi, enfin très exactement, le rendez-vous est à 16h15. Serge et moi, nous organisons une visite avec les catéchumènes, une visite de l'exposition Néandertal au Musée de l'Homme. C'est une exposition que j'ai vue, une exposition passionnante, assez bien réalisée pour les jeunes, mais à vrai dire, tous ceux que ça intéresse pourraient y aller. Et si d'autres que les catéchumènes souhaitent se joindre à nous, ben c'est mieux s'ils préviennent. S'ils ne préviennent pas et qu'ils sont là à 16h15 devant le Musée de l'Homme, eh bien on les au Trocadéro, donc on les accueillera et on les accompagnera avec plaisir. Voilà. Quant aux activités, cette semaine, en fait, je parle des réunions. Ben, compte tenu de ce que je vous ai dit, il n'y en a pas tellement. Mais celles de la semaine prochaine, vous seront dans l'amitié qui paraîtra à la fin de cette semaine et vous seront annoncées par Vincent Fabre qui fait le culte. Déjà, toutes sur le site internet. Merci beaucoup, pardon. Oui, c'est vrai, le site. D'accord. Ça va le micro ? Unissons-nous dans la prière fraternelle. Je vous propose aujourd'hui une prière fraternelle d'engagement proposée par Évangile et Liberté. Notre Dieu, nous nous engageons à résister aux impulsions qui blessent et qui détruisent, à accepter les critiques qui alertent et qui instruisent, à risquer les offres qui exposent et qui lient, à donner la présence qui écoute et épaule, Mais tu sais combien notre cœur est plus petit que le tien. Accompagne-nous donc pour que nos engagements ne deviennent ni nos écrasements, ni nos trahisons. Jour après jour, donne-nous ce qu'il faut pour que nos vies soient nourries et qu'elles puissent se tenir debout. Notre Dieu, nous nous engageons à te servir librement, à te connaître efficacement, à te provoquer quand nous ne te comprenons pas assez, à te questionner encore jusqu'à ce que tu te montres, à te remercier déjà pour ce que tu donnes. Nous nous engageons à vivre fraternellement avec qui nous plaît et avec qui nous déplaît, car tu nous as constitués frères et sœurs de celui qui est mort et ressuscité pour ses amis comme pour ses ennemis. Que notre engagement à ton service par la solidarité avec nos frères et sœurs humains et dans notre Église protestante unie du foyer de l'âme soit notre écho de ton engagement, libre dans son amour, aimant dans sa liberté, spontané et solide, ému et tenace, n'ayant pas haute opinion de lui-même, mais haute opinion de ta grâce. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la, pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe ? Ah mon Dieu ! Pardon, l'offrande. Comment ai-je pu? Je suis désolée. Alors, excusez-moi, avant, j'aurais dû le faire, bien sûr, avant la prière d'intercession. J'étais un peu troublée, il y avait eu beaucoup d'annonces. Donc, il va y avoir l'offrande. Les jeunes vont passer parmi vous avec la... Cette fois-ci, ça peut être des plus jeunes, peut-être. Je vous invite donc à donner. Et nous allons chanter. Merci, Valérie, excusez-moi. Bravo. Donc, c'est le 231. Heureusement, il y a quelqu'un qui ne perd pas le sens des réalités. Quoi ? Non, c'est le dernier, ça. Ah bon, alors, le 257. Bon, bah, génial. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah oui. Oui, oui. Dieu. Et donc nous restons debout. pour l'envoi et la bénédiction. Seigneur Dieu, tu nous as donné de partager un même pain et de boire à une même coupe. Accorde-nous encore de vivre unis en Christ les uns aux autres pour que ton Église porte du fruit, pour que tous les humains puissent accueillir ta vie par Jésus le Christ. Allons avec la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur accompagne votre route. Le Seigneur tourne vers vous sa face et vous donne sa paix. Amen. Et donc nous prenons maintenant le spontané, page 25. Et nous nous retrouvons après. Et après nous écoutons l'orgue et puis nous nous retrouvons pour le...
Garde-nous, Dieu fidèle, pour ta puissante main, pour la vie éternelle, pour ce jour et demain.
Et nous rasseyons bien sûr pour écouter l'orgue.